chanson composée par Maman Dion, femme absolument remarquable, Valérie Roberts, bonjour.
Salut Bernard.
Alors, parle-moi d'elle un petit peu, parce que tout à l'heure, j'ai fait une entrevue avec José Lito, Michaud, évidemment, on a parlé beaucoup...
De la femme.
De la femme, voilà, mais il ne faut pas oublier qu'elle a été, Thérèse Tanguay-Dion, une entrepreneure aussi.
C'est ça qui est assez fascinant quand on parle de celle qu'on surnommait Maman Dion. Hein. Tantôt, j'entendais José Lito dire que jamais il l'appelait Thérèse. Il l'appelait tout le temps Maman Dion parce que c'est comme ça qu'on l'a perçu. Puis moi, ce matin, j'étais en séance de photo, puis tout à coup, mon téléphone m'a émis une alerte et c'était écrit « Maman Dion est décédée à l'âge de 92 ans ». C'était pas Thérèse Dion, c'était Maman Dion. Mais outre ça, c'est une femme qui a eu une carrière exceptionnelle quand même. On a entendu la chanson « Ce n'était qu'un rêve ». Faut se rappeler, à l'époque, c'est elle qui avait écrit la chanson « Je n'étais qu'un rêve ». Pourquoi? Parce qu'elle voulait que sa fille, elle savait que sa fille avait une grande voix, Céline Dion, évidemment. Elle voulait qu'elle devienne une grande chanteuse. Puis, pour aller chercher des producteurs, des gens qui voulaient travailler avec elle, il fallait qu'elle voulait pas qu'elle fasse des reprises, Maman Dion. Fait qu'elle s'était dit « Moi, je veux qu'elle ait ses propres chansons. » Puis, elle cherchait des paroliers pour pouvoir écrire des textes à sa fille qui avait 12 ans à l'époque. Puis, elle n'en trouvait pas. Fait qu'elle s'est dit « Ben, qu'à cela ne tienne, je vais le faire moi-même. » Elle a donc décidé d'écrire elle-même la pièce qui allait devenir le premier succès de Céline. Quand même, c'est pas rien, là.
Écoute, c'est pas rien. Je vous le rappelle, une partie de son amour de la musique lui a été transmise par son père,
qui
lui avait donné un violon à l'âge de 11 ans. Le père de Maman Dion a donné donc à sa fille un violon à l'âge de 11 ans.
Voilà. Et là, ça a fait en sorte que Maman Dion a écrit les paroles de la chanson « Ce n'était qu'un rêve ». Son fils Jacques, le frère de Céline Dion, a composé la musique. Ça a été enregistré et la cassette a été envoyée à René Angélil, qui produisait à ce moment-là Ginette Renault. Madame Dion, qui a eu un rendez-vous avec lui en mars 1981. Et c'est une rencontre qui, évidemment, a fait en sorte que ça a scellé le destin de sa fille. On se mentira pas. Le destin de Maman Dion aussi. René Angélil a accepté de prendre la jeune fille sous son aile. Et là, le succès de Céline Dion, ça a commencé à ce moment-là. Au Québec, oui, mais aussi à l'international, ce qui a fait en sorte que Maman Dion a accompagné sa fille dans les spectacles, dans les enregistrements, peu importe ce qu'elle faisait aux quatre coins du monde, jusqu'à ce que Céline Dion ait 18 ans. Maman Dion l'accompagnait un peu partout. Puis quand Maman Dion est revenue au Québec, donc Thérèse Tanguay-Dion, elle voulait pas rester à la maison nécessairement. Elle voulait relever des nouveaux défis et c'était une excellente cuisine. Fait au début des années 90, elle a décidé de commercialiser les pâtés Maman Dion.
Eh oui,
elle a fait une tournée de promotion pour sa nouvelle entreprise, puis elle a été invitée sur le plateau de l'émission Le Point J, qui était animée par Julie Snyder à ce moment-là. Ouais. Julie Snyder se dit « Mais mon Dieu, elle est tellement bonne, Maman Dion. »
Naturelle.
Et voilà. Puis elle était comme hyper intéressante, hyper pertinente, hyper allumée. Et quelques mois plus tard, elle a eu son émission culinaire à elle. Fait qu'en 1999, Thérèse Tanguay-Dion a commencé sa carrière d'animatrice à la télévision. Elle avait 71 ans. Et elle a été donc à la barre de cette émission-là qui s'appelait Maman Dion à TVA pendant 3 ans. Éric Salvaille, d'ailleurs, était à l'époque son co-animateur. Puis en 2012, quand elle a vu que son mari, Adhémar, était atteint d'un cancer. Lorsque son mari était atteint d'un cancer, elle a décidé de mettre ça de côté, de se concentrer donc pour rester au chevet de son mari. Et après ça, c'est les fondations et la philanthropie qui ont occupé sa vie. Mais c'est quand même une femme qui a eu une carrière à elle-même. Évidemment, ça, elle a marqué une multitude de gens. Je regardais sur Internet ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi donc à son décès. Entre autres, il y a Stéphane Laporte qui a écrit sur Twitter « Madame Thérèse Dion était le cœur d'une famille dont le destin a ému le Québec et le monde. Son existence est la preuve que rien n'est plus fort que l'amour d'une mère qui les rend tout possible. Toutes mes condoléances à Céline Dion et à toute la famille Dion. » Il y a beaucoup de personnes...
C'est beau ce que vient de ça. C'est beau ce qu'a écrit Laporte. Je trouve ça tellement vrai, là. Oui, vraiment.
Vraiment. Puis tu vois, je pense que c'est un peu le consensus qu'on retrouve sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens du monde politique qui ont réagi également. Il y a Stephen Guilbeault, ministre du patrimoine canadien, qui a dit « On n'a qu'une seule maman et celle qui a élevé et accompagné une des plus grandes voix au monde s'est éteinte. toutes mes condoléances à la famille Dion. Fait qu'on souligne vraiment beaucoup son apport, évidemment, dans la carrière de Céline Dion, mais son apport aussi en tant que maman, tout simplement. Évidemment, elle était une mère. Notre chère mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a écrit, elle aussi sur Twitter, Thérèse Dion était la maman de 14 enfants. Elle est aussi devenue, en quelque sorte, la maman du Québec grâce à sa fondation. Elle était la preuve que l'amour d'une mère peut rendre tous les rêves possibles. Toutes mes sympathies à la famille et aux proches. Et il y a aussi des gens qui sont très près de Céline Dion qui ont écrit, qui ont tenu à écrire un petit mot sur les réseaux sociaux. Je pense entre autres à Claude Lemay, à Mégo, qui a accompagné Céline pendant une bonne partie de sa carrière musicale, qui dit « Rest in peace, Madame Dion, je garde des souvenirs tellement agréables de chacune de nos rencontres. Votre vivacité, votre présence d'esprit, vos rires ont été une source d'inspiration pour moi. Toutes mes condoléances à Céline, Michel et à toute la famille. » Et il y a aussi le grand bras droit de Céline Dion ces temps-ci, donc Pépé Munoz, qui a été non seulement son danseur, qui est encore son danseur évidemment, mais son grand ami, maintenant son styliste, qui a écrit sur Twitter, en anglais, que la mère de Céline Dion, Thérèse, nous avait quittés à l'âge de 92 ans. Toutes mes condoléances à Céline et à sa famille. Donc une femme qui a marqué évidemment l'univers de la musique, particulièrement à travers le monde, mais la vie de tous les Québécois. Céline Dion qui n'a pas encore commenté la situation. Elle est supposée être en concert ce soir à Miami, au American Airlines Arena. On se demande si le concert va être annulé, ce qui va être reporté, qu'est-ce qui va arriver. Donc, ce sera à suivre, évidemment, au cours de la journée.
Très bien, Val. Merci pour ce beau tour d'horizon. On va parler maintenant. On change de registre.
Oui,
on
tout à fait.
En mode un petit
Il y a d'autres choses qui se passent, évidemment.
Ben oui.
Voilà.
Alors, Game of Thrones, oui. C'est une des très grandes séries, des plus grandes séries de l'histoire de la télé, honnêtement.
Vraiment.
Et là... Puis moi, je l'écoute. L'aimes-tu, toi, Game of Thrones, cette série-là?
Oui, ben moi, tu vois, j'ai accroché fort, fort, fort sur les premières années. Et vers la fin, j'avais délaissé, malheureusement,
ah oui?
Game of Thrones. Ouais,
ah,
je trouvais que c'était répétitif, mais tu vois, dû à l'engouement, là, quand il y a eu la dernière, l'année passée, je me suis dit, ah, peut-être que je devrais recommencer parce que c'est une série qui a des dizaines de millions de fans partout sur la planète. Puis je dis fans, c'est même des passionnés, ceux qui écoutaient Game of Thrones de 2012 à 2019.
Ah oui.
Et quand ça a arrêté l'année dernière, je sais pas si toi, t'as eu un deuil, mais il paraît que c'était épouvantable.
Ah, mais moi j'ai suivi ça, là. J'étais un vrai maniaque, là.
Pour vrai?
Et, ah oui, non, fini. Maniaque fini. Et puis oui, j'ai vécu un petit deuil. Parce que j'ai pas trouvé que la fin était vraiment géniale, honnêtement. Là, quand tu nous dis qu'ils vont revenir dans deux ans, Game of Thrones, tu nous parles-tu d'un film ou tu nous parles de la série qui rajouterait une saison, là?
Ce serait une autre série, complètement, et qui serait
basée... Une autre saison? Une autre série?
Une autre série, ouais. Game of Thrones qui serait de retour, donc, en 2022. C'est le chef de la programmation de HBO, qui s'appelle Casey Bloys, qui a confirmé la nouvelle au magazine Variety. Il dit que ce serait une série de 10 épisodes diffusés en 2022 et que ce serait ce qui s'est passé avant la série que nous, on a suivie. Donc, ça retracerait l'histoire de la famille Targaryen, mais 300 ans avant les événements que nous, on a suivis dans la série des dernières années. Et donc, ce serait basé sur le livre Fire and Blood, où justement, on parle de l'histoire de cette famille-là en particulier. Donc, ce qu'on sait actuellement, c'est que la série qu'on appelle antépisode, donc antérieure aux épisodes qu'on connaît, est actuellement en train d'être écrite. Ce serait l'auteur George R.R. Martin qui collaborerait avec deux personnes, Ryan Condal et surtout Miguel Sapochnik, qui est celui qui a réalisé plein d'épisodes qui ont été vraiment marquants dans la série originale, celle qu'on a connue, qui s'est conclue au printemps dernier. Fait qu'il y aurait, basé sur le livre, des gens qui ont travaillé sur Game of Thrones, qui nous permettrait de revivre un peu dans cet univers-là.
Okay.
Mais là, prenez votre mal en patience, c'est en 2022. Fait qu'on a le temps en masse.
Oui, oui, mais c'est quand même, je suis content.
Tout à fait, je comprends tout à fait.
Pas le goût de bouder mon plaisir, pantoute.
Ben non.
Bon, parlons de Anthony Bourdain, qui malheureusement nous a quittés.
Oui.
Une grande vedette, on peut dire, de la scène culinaire internationale.
Oui, parce que tu vois, il était un chef, il était auteur, mais la majorité des gens, on l'a connu parce qu'il était devenu animateur de télévision. Un homme qui est décédé malheureusement en juin 2018. Il était dans la région de l'Alsace et il s'est donné la mort à ce moment-là.
Il adorait Montréal.
Il adorait Montréal,
oui. Il adorait les restaurants, parce qu'il faut rappeler un peu pour les gens qui ne suivaient pas ça.
Vas-y, vas-y.
Il se promenait un peu partout sur la planète à la recherche des meilleurs restaurants, pas nécessairement des plus célèbres, des plus connus. Il cherchait un petit peu à travers ça la cuisine régionale, la cuisine authentique, du terroir, des pays. Il était génial et il est parti. Encore aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient de lui. Et là, il va quoi? Son dernier livre va sortir, c'est ça?
Ouais. Ce qu'on a appris, dans le fond, c'est qu'il travaillait à écrire un livre quand il s'est donné la mort en juin 2018. Et c'est celle avec qui il travaillait étroitement depuis de nombreuses années, qui s'appelle Laurie Woolever, qui a terminé le livre. Et donc, ce qu'on a appris, c'est que ça va paraître en octobre prochain. Ça va s'appeler World Travel, an Irreverent Guide. Mon Dieu, mot très difficile à dire en anglais en passant. Irreverent Guide.
C'est, donc, irrévérent, dans le sens d'irrévérent.
Mais tu sais, Anthony Bourdain était quand même assez irrévérencieux dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il aimait aller chercher l'inédit, le côté un petit peu plus loufoque peut-être. Ce qu'on a appris, c'est que ce serait un guide de voyage dans lequel celui qui animait Parts Unknown va partager ses secrets. Donc, où manger, où dormir, les endroits à éviter. Ça, c'est ce qu'on sait. Le livre qui est illustré par un BDiste, un dessinateur qui s'appelle Tony Millionaire. Il y a des amis aussi, puis des membres de la famille d'Anthony Bourdain qui vont signer des textes dans ce livre-là. Et donc, ce sera la dernière fois qu'on aura accès à la manière de voyager d'Anthony Bourdain. Et donc, celui qui savait nous amener dans les sentiers, hors des sentiers battus, pardon, va nous donner une dernière fois. Donc, c'est bon tuyau. En octobre prochain, World Travel, an irreverent guide. Et là, j'arrête de le dire parce que je ne suis plus capable.
Irreverent, tu as raison de dire, c'est irrévérencieux.
Dur, hein? Exactement.
Oui, c'est dur. Alors, il nous reste une minute.
Oui.
Le festival plein écran. En fin de semaine, le festival plein écran, ça pourrait nous faire une belle activité.
Mais si vous cherchez quelque chose à faire, les courts-métrages au Québec, on en fait énormément, mais ils sont très difficilement accessibles. C'est dur de savoir où aller chercher pour pouvoir les trouver. Et donc, depuis cette semaine et jusqu'au 25 janvier prochain, sur Facebook, il y a un festival qui s'appelle le festival plein écran, qui est un festival qui vous présente 4 films par jour. Et pendant 24 heures, ils sont accessibles gratuitement sur Facebook. C'est super simple. Vous vous rendez sur la page sur Facebook, vous tapez plein écran et vous allez pouvoir vous abonner à la page du festival et vous allez avoir accès à tous les jours en premier, donc en exclusivité, à des courts-métrages québécois. Il y en a plein qui sont super entendus. Au total, il va en avoir 24 qui vont être présentés, 19 québécois, 5 français. Et c'est tout présenté en exclusivité.
C'est souvent... et c'est gratuit, là?
C'est 100% gratuit.
Ah, ouais.
Le but, c'est juste de démystifier l'univers des courts-métrages puis de vous permettre d'y avoir accès. Entre autres, il y a Brotherhood de Myriam Jobert qui s'en va aux Oscars et donc qui va être diffusé dans le cadre du festival. Fait que allez vous renseigner, c'est super chouette de découvrir les courts-métrages de chez nous. Souvent, ils font le tour du monde puis on n'y a pas accès. Donc, le festival plein écran, la page plein écran sur Facebook, vous vous abonnez, vous allez avoir accès à des courts-métrages.
Très bien, Valérie Roberts. Je te souhaite un bon week-end.
Même chose pour toi et on se retrouve vendredi.
Absolument.
Parfait.
À vendredi prochain. Et dans un instant, on va parler de ces... pénalité. Pour clients indisciplinés, vous réservez, vous vous présentez pas, bien là, il y a des restaurateurs qui sont tannés de payer pour ça et qui ont décidé d'imposer une pénalité financière à ceux et celles qui respectent pas la réservation ou qui l'annulent pas. Je vais en discuter avec Danny Saint-Pierre et on va prendre peut-être quelques petits appels pour que vous me disiez ce que vous en pensez dans un instant.